Silence dans les champs. À libérer la parole, mais le système tient bon. Un reportage de Rémi Maire. 18 mois après la sortie de son livre choc, Silence dans les champs, qui lui a valu le prestigieux prix Albert Londres, que constate Nicolas Legendre? Il continue à enchaîner les interviews, les débats et surtout les rencontres de centaines de lecteurs. Une libération salutaire de la parole des victimes d'un système agricole, parfois violent, souvent opaque. Mais ce système, lui, laisse causer et tient bon. Avec le recul, quel bilan tirer d'une telle enquête? Quels sont les retours, Nicolas Legendre? Depuis la sortie du livre, il y a un an et demi déjà, j'ai rencontré des lecteurs dans de nombreuses librairies, lors de réunions, de débats. J'ai reçu un nombre incalculable de messages, de mails, venant de tout public, jeunes et vieux, paysans et citoyens, hommes et femmes. Cela a donné lieu à des témoignages forts, poignants, qui rajoutent aux exemples de ma lettre, renvoient au vécu des lecteurs et des lectrices. Ils confortent d'une certaine manière mon diagnostic et mon analyse. Les gens me disent « On le savait ». Mais je n'imaginais pas à ce point. Je n'arrivais pas à faire le lien entre tous les éléments du système, à recomposer les pièces du puzzle. Le livre a eu un retentissement indéniable, avec des moments d'échange très forts, y compris entre les participants à ces rencontres publiques. Comme si l'on avait ouvert les vannes et libéré la parole. Lors de certains débats, on a bien senti le besoin de parler, de témoigner, de partager. Malheureusement, il faut regretter le silence d'une grande partie des leaders politiques ou professionnels. Le titre du livre est bien révélateur de cet état des lieux. Pourtant, Nicolas Legendre, certains ont pu sembler surpris, comme s'ils le découvraient. Tous les témoignages dans le livre et depuis montrent l'inverse. Depuis 40 ans, on a vu les alertes se succéder, venant de toutes parts, de journalistes, économistes, de lanceurs d'alerte, y compris du monde agricole lui-même, voire les cellules sur les agriculteurs en difficulté et les chiffres MSA. Ces alertes ont été étouffées ou ignorées. Au mieux, elles ont donné lieu à des évolutions à la marge. Les chevilles ouvrières du monde agricole sont souvent dans le déni, par aveuglement ou par méconnaissance des réalités. Ils regardent ailleurs. Mais aussi par croyance, comme par religion, une forme de foi dans le progrès, la croissance, la technique et le développement sans limite. Ils hésitent à remettre en cause et à voir les signaux et les indicateurs d'une impasse. Une population agricole âgée, en mal de renouvellement, un taux de suicide élevé, signe d'un mal-être persistant, des maladies chroniques liées à l'alimentation, une chute dramatique de la biodiversité. Ces problèmes ne sont pas seulement à la marge. Ils supposeraient une vraie transformation du système agricole et alimentaire. Où ça bloque, Nicolas Legendre? Les réticences sont fortes. Et les arguments avancés du type « oui, mais » renvoient selon les cas à la souveraineté alimentaire, à l'emploi local dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, à la balance commerciale. Beaucoup d'arguments avancés, comme « il faut du temps, on n'a pas les solutions », doivent être relativisés quand on voit les expériences sur le terrain et les travaux de recherche pour produire autrement. D'autres tiennent parfois de la mauvaise foi ou de la manipulation de l'opinion autour d'idées fausses ou détournées de leur sens premier, comme l'agribashing ou la souveraineté alimentaire. Pour moi, les verrous ne sont pas tant techniques que socio-économiques et politico- et idéologiques. Le modèle dominant profite avant tout à une caste minoritaire, constituée par une partie des paysans, mais surtout par des acteurs économiques de agro-fourniture et de l'agroalimentaire, largement bénéficiaires de la situation, en opposition avec l'intérêt général. Beaucoup de ces acteurs n'ont aucun intérêt à ce qu'une agriculture et une alimentation plus vertueuses soient mises en œuvre. D'une certaine façon, le système en place se défend. Et le débat public est en partie biaisé ou confisqué en interne comme en externe avec la société. Nicolas Legendre, c'est aussi le cas de l'agriculture bretonne ? Oui, on manque d'un projet au sens politique du terme. Cela concerne la FNSEA, les organismes agricoles, type chambre d'agriculture, comme les politiques publiques depuis la région jusqu'à l'Europe, avec la réforme attendue de la PAC. Que veut-on en matière de structure ? La taille des fermes, de modes de production, d'alimentation, d'emploi, de paysage, de biodiversité, d'environnement. J'ai montré dans mon livre la dimension historique de ce type de développement en Bretagne, mais aussi la duplicité des autorités envers les alternatives. Il n'y a qu'à voir la façon dont l'agriculture biologique a été considérée jusqu'à présent par les pouvoirs publics et par les grands acteurs de la distribution, principalement comme une niche pour citoyens éclairés et ou comme un segment de marché comme un autre. Alors que la bio est d'abord une philosophie à laquelle sont adossées un ensemble de techniques et qu'elle porte en germe, dans l'absolu, une véritable révolution agronomique. La Bretagne est prisonnière de son histoire et de son dynamisme passé. La situation actuelle est très ambivalente, avec un potentiel humain énorme, des avantages climatiques indéniables, une jeunesse éduquée et volontaire. Il manque néanmoins une remise en cause des erreurs passées et surtout un horizon clair pour l'avenir. Cela implique un projet davantage sociétal que marketing. À d'autres moments de son histoire, la région Bretagne a su se donner un souffle, un vrai projet collectif, global, économique, social, culturel, territorial, en phase avec l'époque et ses enjeux. Quelle est, Nicolas, dans ce contexte, la place des journalistes et des médias ? L'information est aujourd'hui fragmentée dans un monde de plus en plus complexe. Nous devons aider à décrypter les enjeux, expliquer les multiples contextes dans leur complexité et montrer les conséquences tangibles de certaines décisions, par exemple politiques ou des évolutions comme les structures de production. Il ne s'agit pas de renvoyer la responsabilité aux seuls individus, paysans et consommateurs, ou de saucissonner les problèmes. Nous devons donner des éléments d'analyse globale, à la fois historique, économique, sociologique ou politique, afin d'éclairer ce qui fait « système », entre guillemets. Qu'est-ce qui a plu au jury du prix Albert Londres dans cette enquête, Nicolas Legendre ? Apparemment, c'est le travail d'enquête approfondie et au long cours, à la fois technique et incarné par des témoignages, qui donne une dimension humaine au récit. Qu'est-ce qui peut encore rendre optimiste, Nicolas ? Je suis optimiste par nature, mais aussi pour mes enfants. Historien de formation, je sais que l'histoire peut nous surprendre. Je n'adhère pas à la « entre guillemets logique du pire » défendue par certaines personnes avec lesquelles je peux échanger et pour qui le fatalisme constitue une forme de lucidité. L'histoire nous enseigne précisément l'inverse. Le pire n'est jamais inéluctable. L'histoire est faite de sauts, de rebondissements, de ruptures. Je dis cela en ayant conscience que l'on subit actuellement, à bien des égards, une forme de contre-révolution qui bloque le changement. Rien n'est écrit. « Silence dans les champs » de Nicolas Legendre est publié aux éditions Artaud 2023, 352 pages, 20 euros, en version numérique 13,99 euros et en édition de poche publiée en 2024 chez HarperCollins à 8,30 euros. Voir aussi notre article de mai 2023, Silence dans les champs, un constat implacable.